L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, L'Évangile pour le couple. Et donc nous allons continuer aujourd'hui à approfondir ce que nous avons commencé à aborder la semaine dernière, qui concerne la vocation des chrétiens dans le monde, qui est d'être non pas du monde, mais dans le monde. Et cette semaine, on va continuer avec un nouvel évangile. En fait, ça va être à peine deux versets, Maud, que nous allons retrouver dans le chapitre 5 de Matthieu.
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel s'affadit, comment retrouvera-t-il sa saveur? Il ne sert plus à rien et on le jette dehors.
Voilà, notre vocation, la vocation chrétienne, c'est vraiment de donner du sel au monde. Un autre évangile parlera de la lumière qui doit être mise sur le lampadaire et non pas sous le boisseau. Et certains d'ailleurs disent, heureusement qu'il n'y a pas trop de chrétiens, parce que sinon ça serait beaucoup trop salé, et donc la nourriture terrestre serait immangeable. Bon, ça c'est un autre débat, mais ça montre bien que nous avons vraiment vocation à apporter de la saveur à la vie dans ce monde, avec beaucoup d'humilité, parce que si jamais nous avons cet appel à être sel et à être lumière, Maud, c'est pas d'abord en raison de nos qualités, hein. On n'est pas meilleur que les autres, on est plutôt des tocards.
Oui, on a amplement développé à quel point être chrétien ne signifiait pas qu'on était meilleur que les autres. Simplement, on est sauvé par le Christ et donc appelé à être lumière pour les autres et à les aider à aller vers la lumière qu'est le Christ. Donc ce petit verset sur le sel de la terre peut être aussi est interprété aussi par les commentateurs de l'Évangile comme le sel qui sert au four et qui sert à réchauffer et à cuire, et quand le sel a été trop utilisé, qu'il n'a pas été entretenu, et au bout d'un moment il se craquelle et on peut plus faire un four, on peut plus réchauffer. Il y a cette idée quand même que les chrétiens doivent aussi maintenir l'amour dans le monde, maintenir la chaleur de l'amour. Et Jésus lui-même en a parlé puisqu'il a dit à un moment, mais quand je reviendrai sur la terre, y aura-t-il encore la foi sur la terre? Y aura-t-il encore ces foyers de lumière? Donc nous sommes donc chargés d'entretenir ce feu de l'amour et d'être ce qui donne justement la saveur à notre vie.
C'est ce que dit par exemple Jean-Paul II et ce qu'a repris Benoît XVI aussi, en soulignant combien les régimes totalitaires et les régimes inhumains de notre histoire, et particulièrement ceux du XXe siècle, étaient justement des régimes qui étaient sans Dieu, qui avaient rejeté Dieu. Et effectivement, rejeter Dieu de nos sociétés, c'est faire rentrer l'inhumanité dans nos sociétés.
Voilà,
et faire rejeter Dieu de nos vies conjugales et familiales, c'est mener effectivement à des vies conjugales et familiales qui sont en dérive et qui mènent à des souffrances, et de souffrances parfois aiguës. Et quand je pense à cela, et quand nous disons cela, nous ne pensons pas simplement aux déchirures de conjoints qui se séparent, aux grandes détresses de conjoints abandonnés, on pense peut-être d'abord aux enfants, qui sont les premières victimes de nos détresses conjugales et de nos échecs conjugaux.
Nous invite à être dans le monde et à témoigner là où nous sommes de cette lumière qui nous habite. Donc ça veut bien dire que, bien sûr, un couple prend des engagements dans l'Église, il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas sa vocation numéro un, si je puis dire.
Non.
Il doit être au service, évidemment, de la communauté paroissiale, la communauté qui l'entoure, ecclésiale, de cette portion d'Église dont il fait partie, mais son premier but, sa première mission, son premier appel, c'est d'être dans le monde, témoin du Christ. Et en cela, nous faisons nous avons un rôle dans le monde que même les prêtres et les religieux ne pourront jamais avoir. Ils ne peuvent pas aller jusque là où nous allons.
C'est là, Maud, il faudrait reprendre peut-être le texte de Vatican II qui est précis là-dessus. Le milieu et le moyen de la vocation des laïcs, appelés par Dieu à travailler comme du dedans, à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment, unifiant ainsi l'être et l'agir de leur vie. Donc la vocation spécifique des laïcs, ce n'est pas d'abord l'animation des chants, ce n'est pas d'abord la catéchèse, ce n'est pas les activités ecclésiales proprement dites, c'est la vie au cœur du monde. La place des parents, c'est auprès de leurs enfants, à jouer au foot, à les éduquer au niveau de la musique, à aller rencontrer d'autres parents et familles non chrétiennes, dans le monde du travail, dans le monde de la culture, dans le monde des arts, dans lequel on n'ira jamais voir un col romain ou un religieux.
Dans le monde de la vie de la cité, dans l'engagement politique, social, associatif. Nous devons être partout, mais... y être au nom du Christ. Ça veut dire qu'on n'arrive pas avec notre bannière, évidemment, c'est ridicule. Nous sommes, avec nos frères en humanité, engagés dans le monde, mais nous apportons notre lecture, notre présence chrétienne, parce qu'on y va au nom du Christ.
Voilà, et on essaye tant bien que mal avec Maud, même si on est là depuis toutes les semaines avec vous pour ces émissions L'Évangile pour le couple. En fait, moi demain je suis au travail à Grenoble et après je serai à Marseille et après je serai à mon bureau et engagé dans différents engagements de la vie civile les uns et les autres. C'est ça notre premier appel. Notre premier appel, c'est auprès de nos enfants. C'est au cœur de ce monde, au cœur de la vie de ce monde, témoigner que le Christ est vivant par notre vie, par notre parole, et là où effectivement les structures ecclésiales ne peuvent pas aller rejoindre directement ce monde.
Mais bien sûr, comme nous sommes envoyés dans le monde, et que nous sommes évidemment dans des milieux qui sont très souvent très éloignés de l'Église, il est absolument vital de rester greffé et branché sur le corps du Christ, sur l'Église. Parce qu'on connaît aussi beaucoup de chrétiens qui, à force d'engagement ici ou là, ont perdu complètement la sève de l'Église et ne sont plus capables de témoigner de leur foi. Au bout d'un moment, ils ne savent même plus en quoi elle consiste. Donc c'est vraiment important de savoir que c'est pas parce qu'on est envoyé dans le monde qu'on doit partir tout seul comme des électrons libres. On reste greffé parce qu'on est membre du corps du Christ et qu'on est attaché à notre Église.
C'est là où c'est très important de bien dire que nous sommes pas du monde, mais envoyés dans le monde. Et ça a été un peu une révolution pastorale de Vatican II. Mais du coup, un peu comme un mouvement de balancier excessif, trop souvent... L'Église a essayé de courir finalement derrière le monde, comme si il fallait un peu qu'elle se justifie. Mais que finalement, à des moments, l'Église, dans parfois, s'est un peu perdue justement. Et a oublié sa source, qui est vraiment le Christ, et qui est la confession de foi du Christ. Et que nous ne devons pas oublier que nous avons aussi à témoigner à temps et à contre-temps. Et que notre foi peut être objet de scandale. Et donc, que nous n'avons pas à nous conformer au niveau du monde, que nous avons à témoigner du Christ dans le monde, mais que surtout nous ne pouvons pas nous décrocher du sarment qu'est la vigne du Christ. Et cette vigne, elle est portée par l'Église. Et donc l'ancrage dans la foi et dans la vérité du Christ, dans cette communion, dans la liturgie de l'Église et dans la confession de l'Église et dans la communauté Église, est absolument indispensable, et que la sourde culpabilité de l'Église ou de nombre de chrétiens vis-à-vis du monde n'a pas porté que des bons fruits. Parce qu'à un moment, courir derrière le monde nous a parfois conduit, et a parfois conduit certains, à finalement quitter l'Église ou à quitter la foi. Et c'est effectivement douloureux de l'évoquer. Et donc il faut trouver effectivement ce bon équilibre entre être ancré dans le Christ et complètement engagé au cœur du monde. Cette double tension que nous avons à vivre, et c'est vrai, Maude, que c'est pas facile.
Non, mais d'ailleurs, le Christ nous prévient bien pour ça. Il nous dit qu'il y a quand même un risque que le sel s'affadisse ou qu'il perde sa capacité de garder l'amour et la chaleur. Donc si s'il nous prévient, c'est parce que justement, il nous envoie, si je puis dire, au grand large, et il faut y aller, et c'est notre travail, notre rôle de chrétien et de laïque, et en particulier pour les couples, mais attention de garder quand même l'énergie nécessaire, de pas s'y perdre. Et c'est exactement la même chose pour la vie conjugale, on en a déjà parlé. Si deux époux se donnent à corps et âme à dans toutes sortes d'engagements et ne nourrissent plus leur amour, à un moment ils s'affadissent et puis se retrouvent tout d'un coup complètement perdus dans des engagements de partout, ne sachant plus communiquer entre eux, ne trouvant plus l'amour entre eux, ne se ressourçant plus. Donc de la même façon que ça se vit dans un couple, c'est exactement la même chose avec le corps du Christ. C'est bien de courir le monde entier pour être partout mélangé à toutes les réalités du monde, mais à condition que nous sachions être prudents pour notre propre ressourcement.
Bah, ça a été comme cela l'expérience douloureuse de nombre de couples militants très généreux qui sont engagés avec beaucoup de générosité dans beaucoup de services d'églises, etc. Mais à un moment, et c'est vrai qu'ils se sont retournés en disant « mais on est hyper engagé, mais finalement on se parle plus en tant que couple. Bah, finalement on a délaissé nos enfants. Combien de familles, dans des familles, à un moment, les enfants disent moi la foi chrétienne, je veux plus entendre parler parce que moi la foi chrétienne c'est synonyme papa et maman jamais à la maison. Sans parler de ceux qui vraiment sont tellement engagés à droite à gauche et à l'extérieur, donc X apostolat hyper généreux. Bah, à un moment, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de vie conjugale entre eux. Et c'est des couples qui ont été amenés, certains même jusqu'à se séparer, ou en tout cas à faire un très grand travail sur eux-mêmes. Donc, attention, c'est-à-dire que notre engagement au cœur du monde nous exige de nous une vie spirituelle, sacramentelle, d'autant plus importante, ancrée dans la vérité, ancrée dans l'Église. C'est à la mesure où nous sommes engagés au cœur du monde, au cœur de ce monde, que nous devons vraiment nous ancrer bien davantage dans la prière, la vie sacramentelle, la parole de Dieu, la vie ecclésiale. Alors véritablement, notre mission pourra fructifier. On se retrouve dans un instant. Nous nous retrouvons pour l'évangile, pour le couple. Nous essayons avec Maude de relire l'évangile du sel de la terre, où nous abordons cette vocation des laïcs qui sont dans le monde, au cœur du monde, alors qu'ils ne sont pas du monde. Et d'où l'importance, Maude, on disait, dans nos engagements au cœur de ce monde, l'importance particulière pour nous d'être vraiment ancrés dans le Christ, dans la vie spirituelle.
Oui, de la même façon que tu prenais l'exemple de ces couples qui ont tellement pris d'engagement qu'ils n'ont pas pris le temps de nourrir leur amour et qui se rencontrent qu'il n'y a plus rien au bout de quelques années entre eux. De la même façon, si nous ne voulons pas être coupés du Christ, il faut maintenir cette intimité avec le Christ au milieu du monde. Et ça, moi j'aime beaucoup lire quelques ouvrages de Lorient qui a pas mal développé ce thème du monachisme.
De Lorient chrétien,
pardon. Qui a pas mal développé ce thème du monachisme intériorisé, c'est-à-dire, et d'ailleurs des saints catholiques récents l'ont repris comme Élisabeth de la Trinité par exemple, faire de notre cœur une petite cellule intérieure où nous continuons à prier et être en union avec le Christ partout où nous sommes. Alors après, on peut décliner ça de toutes sortes de façons très pratiques. Se rappeler avec un réveil toutes les heures qu'on est là pour au nom du Christ.
Avec un bip-bip sur l'ordinateur.
Enfin, il peut y avoir des tas de petits...
Sur la montre, sur le portable.
Voilà, des petites astuces pour se rappeler que nous sommes d'abord envoyés en union avec le Christ. Et nous ne sommes pas tout seuls dans notre laboratoire, dans notre supermarché, dans là où nous sommes envoyés. Nous sommes dans le monde, mais avec le Christ. Et donc nous devons absolument à tout prix entretenir cette relation d'intimité avec le Christ partout, en tout lieu.
Alors, voilà, cette mission au cœur du monde, on l'a bien dit, elle demande vraiment des ressources spirituelle importante, sinon nous risquons de nous y perdre. Et d'ailleurs, la parole de Dieu est très claire. En Matthieu au chapitre 16, le Christ dit « Que sert à l'homme de gagner le monde, et même à convertir le monde, hein, dans l'apostolat, même dans la mission, etc., s'il y perd sa vie ?» S'il y perd sa vie, voilà. Et donc nous devons être ancrés dans le Christ, mais on n'est pas des surhommes. On l'a bien dit plusieurs fois, un mot qui nous est cher, on est une bande de tocards qui sont sauvés par le Christ et qui ont été retournés par le Christ. Et donc on n'est pas des surhommes. Eh bien justement, il faut là encore écouter la parole de Dieu, écouter ce que nous dit Paul. Dieu a choisi ce qu'il y a de faible dans le monde pour confondre ce qui est fort, pour confondre ce qui est fort. Voilà. Hein. Et je me suis présenté à vous faible et tout tremblant, dit Paul à son auditoire. Je me suis présenté à vous faible et tout tremblant. Est-ce qu'on ne se reconnaît pas chacun dans ses paroles faible, tout tremblant? Oui, effectivement. La tâche nous paraît immense. Nous sommes seuls. On n'est pas, on l'a déjà dit plusieurs fois, comme les prêtres et les religieux, à toute une structure qui nous encadre, qui nous bichonne, qui nous a formés, qui nous a, etc., etc. Nous, allez, hop, trois réunions, et hop, allez, larguez dans le monde et débrouillez-vous. Voilà. Effectivement, mais le Seigneur nous assiste. Hein, le Seigneur nous assiste. Mais c'est vrai qu'il faut prendre la mission au sérieux, bien prendre la mesure, effectivement, de l'exigence qui nous est faite par le Christ.
Nous avons à la fois cette force de Christ et cette humilité de connaître notre faiblesse, que nous sommes dans cette sorte d'ambivalence, Alex, qui fait partie de notre condition de chrétien. Je suis pauvre, faible, tout tremblant, mais je sais, par la foi, que le Christ peut m'assister et l'Esprit Saint peut mettre dans ma bouche les paroles, les comportements qui conviennent pour témoigner du Christ, au-delà de mes forces. Et ça, je pense que c'est une expérience qu'on a peut-être, que beaucoup d'entre vous ont pu faire, quand de temps en temps on se trouve dans des situations où nous vient une inspiration qui va toucher la personne, qui va la rejoindre, qui va l'ouvrir au Christ, alors que franchement, mais on savait absolument pas quoi faire, on était démunis, on savait pas quelle attitude avoir, quelle parole, et cette inspiration nous a poussé à rejoindre l'autre, et à ce moment-là, un chemin a été possible. Ça, c'est vraiment des merveilles de l'Esprit-Saint. Et à chaque fois, ça me bouleverse de voir à quel point, dans des situations apparemment complètement bouchées, il va y avoir une porte qui s'ouvre et une inspiration qui va nous donner vraiment de pouvoir rendre compte du Christ sans qu'on ait prémédité quelque part.
Et chose importante, c'est vraiment important de bien prendre conscience que l'important, c'est vraiment cette transparence à l'Esprit du Seigneur, et que ce n'est pas un vain mot que de dire que le Seigneur vient rejoindre et bénir les faibles et ceux qui sont tout tremblants, les humbles. Pour prendre un exemple, nous étions, on va pas nommer ni le lieu ni la date, mais dans une grande rencontre avec beaucoup de monde, etc. Il y avait des gens très savants, universitaires, etc. Des gens qui ont écrit beaucoup de très beaux livres, etc. Qui ont fait des grandes conférences sur la foi, ceci, cela, et c'était d'une profonde indigestion. Vraiment, ça touchait pas le cœur, on en comprenait un mot sur trois. C'était un peu délicat, mais c'était très savant. Et puis est venu en fin de journée un garçon qui était chanteur, qui connaissait pas le Christ et qui a été retourné complètement par le Christ. Et il a commencé à témoigner de ce qu'il avait vécu avant, de la foi de sa maman, et comment sa foi, la foi de sa maman, qui est une pauvre, qui a vraiment prié, imploré le Seigneur, et à un moment, il a rencontré le Christ qui a transformé sa vie. Et on avait une assemblée de plusieurs centaines de jeunes qui étaient saisis à entendre ce garçon qui n'avait pas fait d'études témoigner de la rencontre du Christ. Et là, vraiment, ce garçon a témoigné comme jamais que le Christ était vivant. Alors que vous avez des professionnels de la théologie ou de ceci, ou l'université ou la philosophie, bah, qui finalement n'avaient touché le cœur que bien peu de personnes. Et l'évangile là était vraiment confessé, attesté, qu'il était vivant, qu'il n'était pas une parole morte d'il y a 2000 ans, mais vraiment une confession vivante de Jésus ressuscité.
Voilà, d'ailleurs c'est un épisode aussi de l'évangile qui est très touchant. C'est qu'à un moment, Jésus, en voyant justement un événement de ce même type qui s'est produit, a été saisi dans ses entrailles, on nous dit la parole, donc ça veut dire vraiment en profondeur, d'une sorte d'émotion et de jubilation, et il s'écrie vers le Père dans une sorte de prière. « Oh, je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Et c'est une exultation. Et voilà que quand nous nous présentons comme des tout-petits, alors nous est donné comme une sorte de vérité, lumineuse, claire, facile à transmettre, mais simple, avec des mots tout pauvres. Et là, le Seigneur passe. Et là, l'Esprit-Saint passe. C'est extraordinaire, cette expérience. C'est une vraie jubilation. Mais je dirais, à la limite, presque à la mesure de notre pauvreté. Et c'est ça qui est, je dirais, l'appel de Dieu. Il nous envoie dans le monde pour être docilement un instrument de son Esprit-Saint, mais dans une pauvreté radicale.
Et là encore, la parole de Dieu atteste vraiment tout ce qui est dit dans ce sens. Et il faut croire que le Seigneur peut faire des merveilles malgré la pauvreté de nos vies. La sagesse des sages se perdra et l'intelligence des intelligents se dérobera, dit le Seigneur dans la bouche d'Isaïe. Voilà. Le Seigneur dira par la bouche de saint Paul, les pensées des sages sont vaines, elles sont folies pour Dieu et vouées à la destruction. Voilà. Et puis, encore dans l'évangile de Luc, je vous donnerai moi-même un langage et une sagesse à quoi nul ne pourra résister et contredire. Alors, heureusement, bien entendu, que nous avons dans l'Église, heureusement, et ça, l'Église y veille depuis des siècles, bien sûr, des facultés, des formations, pour que vraiment nous puissions rentrer dans cette intelligence du cœur, intelligence de la révélation, c'est fondamental, sinon à ce moment-là, on risque de dériver dans du sentimentalisme. Et là aussi, ce serait extrêmement grave, et il y a encore aujourd'hui des déviances dans l'Église dans ce sens. Mais tout cela est pour dire que nous avons vraiment à accueillir l'intelligence de l'Esprit-Saint de la révélation, et qu'il est donné pas simplement aux diplômés, mais qu'il est donné à tout le peuple de Dieu et au couple que nous sommes.
Nous sommes appelés en tant que couple dans le monde à être levain dans la pâte, c'est-à-dire, et celle de la terre, c'est-à-dire que là où nous sommes, dans la pauvreté de notre quotidien, au nom du Christ, l'Esprit-Saint peut agir par nous et appeler et montrer au monde l'amour dont nous vivons. Et c'est parce que nous nous aimons l'un l'autre comme le Christ nous apprend à nous aimer, qu'alors les autres pourront dire « Voyez comme ils s'aiment et voyez comme le Christ remplit leur vie et moi aussi, j'ai envie de vivre ça ». Et c'est ça le vrai témoignage, c'est que le couple chrétien engagé dans le monde donne envie de suivre le Christ.
Et c'est comme cela que nous avons été témoins de tellement de manières différentes, que ce soit au niveau des jeunes, au niveau de jeunes couples, ou de couples plus mûrs, qui à des moments butaient sur la question de la foi, etc., et ne comprenaient pas. Mais à un moment, on fait vraiment l'expérience, la rencontre concrète de l'amour du Seigneur, qui retourne le cœur. Et à ce moment-là, les questions, les questionnements sur lesquels ils butaient depuis toute une série d'années, eh bien, effectivement, à ce moment-là, ils ont été vraiment éclairés. Et comme ce qui était vraiment brouillé, a commencé à être de plus en plus limpide. Ils ont commencé vraiment à avoir, de ce fait, des clés lecture par rapport à leur vie antérieure, par rapport à leur histoire, par rapport à leurs difficultés. Le Seigneur, dans la foi, ne nous enlève aucune difficulté, mais nous donne des clés lecture et des armes pour vivre et affronter cette vie au cœur de ce monde. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps que nous avons pu passer ensemble. Nous prions pour vous, que le Seigneur vienne vous bénir, vous accompagner dans vos vies conjugales, familiales, et qu'il vous bénisse et qu'il vous rejoigne au cœur de ce monde. À très bientôt, à la semaine prochaine.
Retrouvez Alex et Maud Loriot-Prévost dans leur livre en 3 volumes, L'Évangile pour le couple, aux éditions du Jubilé.